Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'AC. AC, c'est Agir ensemble contre le chômage. Alors je me trouve en compagnie de Gilles.
Salut.
De Ludovic.
Bonsoir.
Et j'ai aujourd'hui deux invités exceptionnels, Nicolas Beau, journaliste politique au Canard Enchaîné.
Bonsoir.
Ainsi que son collègue Olivier Tosseur, journaliste économique au Nouvel Observateur.
Bonsoir.
Nous parlerons dans notre deuxième partie d'émission de leur ouvrage sorti récemment aux éditions Les Arènes, consacré à Bernard-Henri Lévy, une imposture française. Vous pourrez bien sûr réagir en nous téléphonant au 01 40 05 06 10. Mais tout d'abord, dans un premier temps, on va évoquer avec toi, Gilles, la répression après les manifestations anti-CPE.
Oui, en quelques phrases, oui. En fait, on savait que la France était un pays répressif depuis un certain nombre d'années déjà. Ça s'est encore vu après les manifestations contre le CPE ces derniers temps, puisqu'il y a des centaines de jeunes qui se sont retrouvés devant les tribunaux en comparution immédiate et qui ont simplement pour avoir manifesté ou alors occupé des bahuts dans toute la France. Hein. Donc, les plus tragiques dans l'histoire, ce sont les condamnations, puisque ça a été très très fort, puisque beaucoup de tribunaux en France ont vraiment tapé sur les jeunes, en gros. Hein. C'est des fortes amendes, des travaux d'intérêt généraux, donc des tiges aussi, des années de privation civique, également des sursis hein, qui ont été... voilà. Donc, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que Marie-Georges Buffet, le 13 avril, a lancé une pétition pour demander une amnistie générale à propos de ces jeunes manifestants, pour que les condamnations soient arrêtées, enfin qu'on arrête les condamnations. Et donc, si vous voulez signer, il suffit d'aller sur www.humanité.fr, hein, donc le site de l'Humanité, le journal. Hein.
Parce qu'au-delà des délits constatés, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de jeunes au moment des charges de CRS qui ont été purement, apparemment, d'après les témoignages qu'il y a eu, ont été purement et simplement embarqués parce qu'ils étaient là. À ce moment-là.
C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion entre ce qu'on pourrait appeler de vrais casseurs ou de faux casseurs, parce qu'il y a aussi des faux casseurs, et également des manifestants qui viennent manifester pacifiquement. Et ça a été, effectivement, tout le monde a été pris comme ça d'assaut par les CRS, entre autres, dont notre camarade sud PTT qui a été piétiné dans une manif. Donc, effectivement, dans le brouhaha, c'est vrai que les sont tous retrouvés, a priori, devant les tribunaux. Quoi. Grande partie, en tout cas.
Oui, il faut préciser qu'il y a aussi eu des arrestations d'après-manif, en fait, hein, des gens qui ont été pris comme ça parce qu'on croyait les avoir reconnus sur des images. Et puis, il s'est révélé qu'en fait, voilà, c'était pas eux, mais qu'il a fallu faire des pieds et des mains pour les sortir simplement de la garde à vue et qu'ils ont une procédure derrière qui leur colle le cul. C'était quand même assez répressif dans la mesure où on a mis l'accent sur les casseurs, mais il y a eu beaucoup de gens... de jeunes qui étaient simplement lycéens, en fait, on les a stigmatisés, ou même de militants aussi d'extrême-gauche qui ont été embarqués. Voilà, il s'est passé un peu dans le brouhaha médiatique comme des arrestations de casseurs.
D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport
non,
à
non, pas
ça.
Précisément par rapport à ça, mais il faut dire qu'il faut voir que la France continue à être... dans ce domaine, dans le domaine civilisé, en tout cas, le fer de lance de la répression, c'est tout, quoi. Donc, il faut absolument dénoncer ça et puis, voilà, aller signer cette pétition sur le site de l'Humanité.
Alors, outre la répression, on a aussi parfois, Ludovic, une interprétation étrange des chiffres, puisque tu vas nous parler maintenant de cette fameuse enquête des intentions d'embauche qui a été pondue récemment par l'UNEDIC.
Bah écoute, l'UNEDIC sort chaque année une enquête d'intention d'embauche. C'est nouveau, alors c'est des intentions d'embauche. C'est-à-dire que c'est des formulaires apparemment de pré-embauche qui sont remplis par à la Sécurité sociale. Or, effectivement, en fait, ces intentions d'embauche sont quand même assez intéressantes puisque on a constaté d'abord qu'il y avait une explosion du travail saisonnier, beaucoup plus que les autres années. Ça représente à peu près un tiers des 1,2 million de déclarations d'embauche faites et principalement dans les métiers donc de l'agroalimentaire, les grandes surfaces, la restauration, le nettoyage, donc des boulots des petits boulots quoi et des boulots pas très qualifiés. Or on a un autre enseignement, c'est que la majorité finalement des déclarations d'embauche globale concerne des emplois d'ouvriers non qualifiés. C'est-à-dire que, enfin, on comprend mieux à la lumière de ces chiffres, le CPE ou le CNE, c'est que c'est des types de contrats qui sont censés s'adresser à une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Et effectivement, on a pondu sur mesure ce contrat pour ces emplois-là. Mais je dois rappeler qu'il y a quand même un double discours du gouvernement sur l'exigence de formation.
Que là, ça me paraît assez contradictoire entre il faut se former professionnellement pour arriver au plus haut niveau de qualification pour satisfaire les exigences et les besoins des entreprises et des employeurs. Et d'un autre côté, il est quand même nécessaire d'avoir parmi la masse des actifs un certain nombre de personnes qui ne sont pas qualifiées et qui sont de fait sanctionnées socialement par les contrats et les emplois les plus pénibles.
Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement on a effectivement des contrats, des travailleurs pauvres qui se généralisent partout en Europe, mais en plus on a des contrats qui sont adaptés à leur situation avec des discours qui sont tout à fait surréalistes du genre « il faut sauver de la précarité, donc précarisons ».
Très bien, je te remercie. On va passer à une petite pause musicale.
Victime d'attentats pâtissiers, qu'est-ce qui nous a fait marrer? Le philosophe des beaux quartiers, la chemise. L'emparté.
Et oui, c'était Renaud Lantarté, une petite chanson dédiée à Bernard-Henri Lévy. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Je reçois ce soir exceptionnellement Nicolas Beau, journaliste politique au Canard Enchaîné, ainsi qu'Olivier Tosseur, journaliste économique au Nouvel Observateur, pour leur dernier ouvrage commun, collaboration commune, sur Bernard-Henri Lévy, une imposture française, aux éditions Les Arènes. Vous pouvez bien sûr réagir, mais moi la question que j'avais envie de me poser par rapport à Bernard Lévy, c'est que pour moi, c'est quand même le symbole du dandysme et des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, BHL, quoi. Et ben, il fascine par ses réseaux, cette capacité à empêcher que des articles déplaisants sur sa personne paraissent. Vous retracez un peu dans votre livre le portrait d'un héritier qui aime autant les affaires que les livres, même s'il en parle un peu nettement moins. Or, le paradoxe, c'est qu'à la base, vous êtes des journalistes d'investigation, Olivier Tosseur au niveau économique, Nicolas Beau au niveau politique. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé en tant que journaliste d'investigation dans ce domaine à faire une biographie et vous intéresser à Bernard-Henri Lévy?
Mais si vous voulez, Bernard Lévy, pour nous, c'est le symptôme le plus fort qu'on connaisse du mode de fonctionnement d'une majorité des médias en France. Et on l'a pris comme tel, comme une espèce de virus qu'on a envie d'analyser. Parce que, si vous voulez, la façon dont il s'est arrogé un droit de regard sur ce qui était publié, ce qui devait être à l'ordre du jour du débat public en France, eh bien, ça nous paraît une espèce de présomption tout à fait anormale. Et c'est pour ça qu'on a voulu tenter d'expliquer comment il a pu s'imposer de cette façon-là. Un exemple, par exemple, c'est Bernard Lévy ne s'intéresse absolument pas aux sujets sociaux, économiques. Il les effleure dans sa chronique du Point, et l'essentiel de ses 30 bouquins, même pas l'essentiel, la totalité de ses 30 bouquins ne touche absolument pas à l'approche sociale et économique des sujets. Dans son dernier livre sur les États-Unis, il ne va pas du tout parler de la situation concrète de millions d'Américains. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 portraits de milliardaires, et pour lui, voilà, la question économique est réglée. Bon. Donc, si vous voulez, ça renvoie au fait que les sujets aujourd'hui sociaux, bon, vous êtes évidemment ici concerné par la précarité, le chômage, toute l'évolution des modes aujourd'hui de travail. Bon, ces questions sont tout à fait minoritaires aujourd'hui dans la presse. Alors, sans parler des banlieues, ou alors, si vous voulez, dans les journaux, les banlieues, on envoie le dernier stagiaire, le dernier pigiste, etc. Bon. Or, donc, les médias, la majorité, hein, faut pas non plus, on ne vit pas dans un monde totalitaire, il y a quand même heureusement des espaces où les choses se disent et s'expriment. Mais une grande majorité des médias, au fond, on fait une espèce de hiérarchie sur l'actualité, où l'actualité sociale est secondaire. Bon. Et ce sont des gens comme Bernard-Henri Lévy qui impose cette espèce d'ordre des valeurs.
Oui, non, mais on a quand même, enfin, on a un certain malaise à lire votre livre parce qu'on voit l'ascension de Bernard-Henri Lévy, en quelque sorte, et on voit un homme qui se représente, qui passe son temps à se représenter en permanence, hein, devant les médias. Donc on a une espèce de d'utilisation de la société du spectacle, et en même temps la personne a des réseaux, a une multitude de c'est quelqu'un des médias qui utilise qui de l'intérieur des médias peut pervertir ou contrôler le système.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui se construit une statue idéale à son point de vue, qui est absolument éloigné de la réalité. Donc on a voulu faire une enquête aussi sur lui pour montrer comment, avec la complicité plus ou moins consciente des dirigeants des médias, je vais parler des dirigeants des médias plus que des médias, parce que dans les journaux, dans les télés, dans les radios, il y a les dirigeants, les rédacteurs en chef, les patrons, et puis il y a les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent, qui nous ont beaucoup aidés pour faire ce livre, évidemment. En ayant une relation privilégiée avec les propriétaires des médias, avec les directeurs, Bernard-Henri Lévy arrive à se forger une image d'intellectuel. Or, qui c'est, en fait, Bernard-Henri Lévy? C'est un philosophe. Il se présente comme un philosophe. Il n'est enseigné nulle part. Il n'y a pas une université qui enseigne Bernard-Henri Lévy. Il se présente comme journaliste. On montre dans le livre qu'il mélange le vrai, le vraisemblable, le faux, plus souvent le faux. Il se présente comme cinéaste, il a réalisé un film qui est le plus gros bide de l'histoire du cinéma français. Il se présente comme écrivain, il a écrit 2 romans en 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très 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 surcoté et à qui on ne pose jamais les vraies questions.
Moi, j'ai envie de poser une question parce que on a l'impression, moi j'ai lu votre livre aussi, et c'est vrai que j'étais surpris de ne pas avoir été étonné dans le premier chapitre sur la presse de tout ce réseau par rapport ce qui demande aux rédacteurs en chef pour réécrire les articles des journalistes, etc., que les journalistes finissent par accepter, peut-être par obligation parce que c'est financier aussi derrière tout ça. Mais est-ce qu'il y a un système, parce que tu tout à l'heure tu parlais de que c'était un peu Bernard-Henri Lévy, c'était un peu un des seuls qui posait problème à ce niveau-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un système aussi, Bernard-Henri Lévy, parmi les écrivains, philosophes ou journalistes, etc., il n'y a pas aussi un système de, pas système du spectacle, mais un petit peu où il y a de la représentation, de la surreprésentation télévisuelle comme journalistique papier? C'est un peu la question que j'ai envie de poser.
Non, mais tu as raison, c'est pas du tout un des seuls. Mais c'était pour nous le plus automatique. C'est tout. Mais c'est loin d'être le seul, évidemment. Mais il illustre parfaitement cette classe médiatique dirigeante, bon, qui impose ses valeurs. Alors, comment elle vit, cette classe? Elle vit notamment comme Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire, elle vit sur un mode de vie, un style de vie qui n'a absolument rien à voir avec celui de l'immense majorité des Français. Et donc, elle va considérer que ce qui l'intéresse, elle, ce sont, par exemple, en matière de tourisme, ça va être les rials à Marrakech, les palaces américains où Bernard-Henri Lévy est descendu pour faire son livre sur les États-Unis, cette espèce de tourisme extraordinairement luxueux, etc., et non pas concrètement ce que c'est que les gens qui prennent des vacances, où est-ce qu'ils vont, etc. Bon. Et donc, dans les journaux, on va parler de cette espèce de tourisme de papier glacé et non pas d'un certain nombre de sujets. Je prends cet exemple du tourisme, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais donc, les journaux vont choisir des sujets qui intéressent cette classe très très minoritaire et qui n'intéresse pas. Et alors après, on s'étonne par exemple sur la désaffection des gens pour la presse écrite. Bon, alors c'est vrai que ça renvoie à des tas de paramètres. Mais il y en a un qui est important, c'est que peut-être les journaux ne parlent pas des sujets qui concernent les gens.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu dans votre livre que Bernard-Henri avait passé son temps au niveau de son portable à appeler les gens, qu'il avait des factures téléphoniques faramineuses, qui est l'équivalent d'un salaire de cadre moyen par mois. Et à ce titre, il y a deux exemples qui m'ont particulièrement choqué. Il y a deux journalistes, par exemple, dans Elle Magazine, qui en octobre 2001 vont le voir pour promouvoir son ouvrage « Réflexion sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire ». Et elles sont censurées, et c'est lui qui réécrit tout. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, quoi.
Oui, parce que là on rentre vraiment dans le système BHL. Comment ça se passe? Les deux journalistes de Elle viennent faire une interview de BHL sur son dernier livre. Et posent des vraies questions, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elles sont chez BHL, dans le 7e arrondissement, dans son appartement de 378 mètres carrés, luxueux. Et elle lui parle de son argent, par exemple. Alors, il n'est pas interdit d'avoir de l'argent. Bien sûr, évidemment. Mais on peut en parler, on peut poser une question dessus. Donc elle pose des questions. Elle rédige leur interview. Et elle l'envoie à Bernard-Henri Lévy pour approbation. Et c'est là qu'il devient fou parce qu'il ne veut pas qu'on parle de son argent du tout. Parce que ce n'est pas dans l'image du pur intellectuel qu'il veut se donner. Donc il se trouve qu'elle appartient au groupe Hachette. Le groupe Hachette, c'est à l'époque Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère qui est l'éditeur de BHL lui-même et un ami très proche. Donc que fait Bernard-Henri Lévy? Eh bien, il appelle les gens de chez Lagardère en disant « Vous n'avez pas le droit d'écrire ça, donc vous ne l'écrivez pas. » Et ils ne l'écrivent pas.
Mais on a quand même... cette affaire de donner les interviews, de redonner les interviews pour lecture aux hommes politiques ou aux artistes ou à n'importe qui. Bon, au départ, on a fait ça, passé ça pour de la déontologie, de l'honnêteté. Mais là, on voit bien que finalement, BHL reconnaît lui-même avoir le droit de réécrire ses interviews. On ne dit pas qu'il réécrit les questions, bien sûr.
Il réécrit les questions, c'est ça. C'est-à-dire que ça existe, ça fait partie quelque part de la déontologie journalistique. Si vous faites une interview de quelqu'un, si cette personne accepte de vous donner son interview à condition qu'elle puisse vérifier les mots que vous mettez dans sa bouche, ça fonctionne. Et ça fonctionne comme ça dans beaucoup de milieux. Bernard-Henri Lévy, lui, innove. C'est-à-dire que lui, il contrôle ses réponses, telles qu'elles ont été rédigées par ces journalistes, mais il contrôle également les questions des journalistes.
Et l'ordre des questions. En fait, c'est un publié reportage. Ça n'a plus rien à voir. Le journaliste ne sert plus à rien. Il devrait directement écrire ses propos.
Je ne comprends pas parce qu'il y a un souci au niveau de la liberté de la presse, parce que normalement, là, dans le canard, il y a pont sur le bec, parce que des fois, les journalistes reconnaissent qu'ils ont fait peut-être une erreur, une coquille. Sinon, il y a le droit de réponse dans tous les autres journaux. À la limite, on peut porter plainte pour diffamation dans un tribunal. Et là, comment ça se fait qu'on laisse ce monsieur reprendre les articles sans qu'il y ait de levée de bouclier ou de...
Parce que c'est le cœur du système BHL, c'est que c'est un système... qu'est-ce que c'est le système BHL, pour vous définir? C'est un système de clientélisme. Il a des amis, ses amis sont des amis haut placés dans les médias. Ce sont les patrons des rédactions, dans les journaux, dans les radios, dans les télés, et ce sont aussi les propriétaires, carrément, qui sont à tu et à toi, puisque Bernard-Henri Lévy est un milliardaire comme les propriétaires. Donc ils sont d'égal à égal, ils dînent ensemble très souvent. Donc le système normal ne s'applique pas à BHL. BHL, lui, intervient... n'a pas besoin d'aller en justice pour faire valoir ses droits. Jamais. Il n'a jamais fait un procès à personne. On l'a vérifié, ça. Non. Et pourquoi il n'a pas besoin de faire de procès? C'est qu'il est intervenu en amont. Il fait de la censure en amont.
Alors, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'il a un tel pouvoir et une telle influence, ce monsieur, qui se permet même de censurer Jean-François Kahn, et il l'a fait. Donc, le créateur de l'événement du Julie et puis initiateur de Marianne. Et il l'a fait en passant notamment par son ami, le milliardaire François Pinault.
Oui, ça c'est une histoire qu'on peut raconter très, très, très brièvement. C'est à un moment donné, l'hebdomadaire Marianne a des problèmes de trésorerie, des problèmes de fin de mois. Les gens de Marianne s'en ouvrent un jour à BHL et qui dit « Ok, je vais vous aider ». Donc, Bernard-Henri Lévy appelle, convainc en tout cas son ami François Pinault, un des plus grands milliardaires de France, de financer discrètement et de financer Marianne. À partir de ce moment-là, Marianne est sauvée, donc c'est, quelque part, c'est très bien. Il se trouve que ça s'est passé de façon extrêmement confidentielle, extrêmement discrète, personne ne le sait.
Mais c'est ça qui est anormal. C'est le plus anormal de l'histoire.
Ça, c'est anormal. Mais Bernard-Henri Lévy va utiliser le fait qu'il a rendu un service à Marianne en contactant François Pinault qui a donné de l'argent. Il va utiliser ce fait-là pour ensuite exiger de Marianne des publiés reportages hebdomadaires pratiquement sur sa personne. C'est-à-dire que Marianne perd de ce fait la liberté d'écrire sur Bernard-Henri Lévy. parce que Bernard Lévy a contribué à sauver Marianne. Et personne ne l'a su. Ça reste sous le manteau, ça reste discret, ça reste non public.
Tout de suite, une pause musicale et on se retrouve. C'était l'opportuniste de Jacques Dutronc. Vous êtes toujours dans l'émission Mode d'emploi d'AC, c'est Agir ensemble contre le chômage sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Alors je crois que nous avons tout de suite un auditeur en ligne.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir Joël.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, moi je voulais poser une question à Nicolas Beau et Olivier Tosseur. Je voulais savoir quelle était la réaction, j'allais dire, entre guillemets, des collègues philosophes, si je puis dire. On se souvient, il y a quelques années, de la sortie de Bourdieu par rapport aux médias. Est-ce que vous avez eu des réactions, j'allais dire, de collègues, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler le terme par rapport à Bernard Lévy, mais de collègues philosophes par rapport à cette situation de l'omniprésence de Bernard-Henri Lévy dans les médias et dans je dirais le débat intellectuel français, quoi.
Non, écoutez, on n'a pas eu vraiment de réaction parce qu'en fait les collègues de BHL, enfin les collègues entre guillemets, oui. parce que là nous on parle de philosophes, de vrais philosophes en fait, hein, et pas de people juste. Mais les philosophes en fait, leur réaction c'est de l'ignorer parce qu'ils sont ils se considèrent vraiment au-dessus de tout ça. Un vrai philosophe considère qu'il a du travail à faire dans le monde des idées et qu'il a absolument pas à intervenir dans le monde des paillettes. Donc, il est assez largement impossible d'avoir des réactions de Derrida ou de plein de gens comme ça qui sont encore vivants sur Bernard-Henri Lévy.
Non, parce que en même temps. Il y a quand même où il est intervenu quand même dans des choses assez quand même délicates. Hein. On pense à l'affaire Daniel Pearl, sur la Yougoslavie aussi. Il y a quand même un moment où peut-être des intellectuels et des philosophes plus engagés et plus au fait de ces situations peuvent peut-être un petit peu faire tomber le masque un petit peu.
Non, en fait, ils peuvent pas vraiment faire tomber le masque parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre en fait. On leur donne pas la parole parce que quand BHL se saisit d'un sujet, vous avez parlé de la Bosnie, vous avez parlé de Daniel Pearl, il n'y a que lui qui a le droit de parler dans les médias, en tout cas d'avoir une parole publique. Et il s'arrange donc puisqu'il connaît comme on le décrit dans le livre. Comme il contrôle quelque part un peu tous les grands médias, en tout cas les grands, il s'arrange pour que au moment où il est sur le sujet, il n'y a que lui qui puisse parler. Nous, dans notre livre, on a montré en enquêtant, et donc 3 ans plus tard que sur Pearl, par exemple, sur le domaine de Pearl, puisqu'il a mobilisé la parole sur Pearl pendant au moins 1 an, on s'aperçoit nous que la famille même de Pearl, de Daniel Pearl, c'est-à-dire son épouse, a des paroles extrêmement sévères pour Bernard-Henri Lévy, puisqu'elle nous dit pour la première fois que Bernard-Henri Lévy c'est quelqu'un qui non seulement elle a en tout cas pas une grande estime de Bernard-Henri Lévy, estimant qu'il a un ego qui détruit toute son intelligence.
Mais je pense que c'est là aussi qu'on voit la différence des médias aujourd'hui et hier, parce que je suis tombé hier sur un petit documentaire sur Michel Foucault, qui était intervenu très peu à la télévision, peut-être intervenu 1 ou 2 fois dans une émission, mais je veux dire qu'il y avait un relief qui était très positionné par rapport à des questions sociales et qui mettait les mains dans le cambouis, si on peut dire, quoi. Et le système médiatique à l'époque était peut-être moins encadré et peut-être moins effectivement uniforme qu'aujourd'hui, peut-être.
Oui, je pense qu'à l'époque, le média dominant, c'était la radio.
Oui.
Et que la radio, il y a beaucoup plus de temps pour parler, alors qu'à la télévision, pas dans l'absolu, on pourrait imaginer une télévision qui laisse aux gens le temps de parler, mais de fait, dans la façon dont elle fonctionne, Maintenant, elle pratique une espèce de zapping systématique. Bourdieu l'avait d'ailleurs montré dans certains travaux. Et donc, le temps aujourd'hui de la télévision n'est pas le temps d'expression de Michel Foucault et de quelques autres. Et donc, c'est des mauvais clients, les vrais philosophes. Alors qu'évidemment, Bernard Olivier, il faut reconnaître que comme client de la télé telle qu'elle fonctionne, non pas, je répète, non pas de la télé dont on peut rêver, mais de la télé dont elle fonctionne, eh bien, c'est un client parfait. Il vous fait 30 secondes, il vous fait une minute et demie, il ne bafouille pas.
Il vous fait du sérieux.
Comme en plus, en général, les animateurs de télé l'ont prévenu des questions qu'ils allaient lui poser, et surtout des questions qu'ils n'allaient pas lui poser. Il est parfaitement rodé. Je peux vous dire, nous, on a eu une émission un peu longue là, chez Daniel Mermet récemment. Bon,
oui.
Daniel Mermet qui était plutôt, disons, en sympathie avec le livre qu'on avait écrit, ben je peux vous dire qu'évidemment, quand on a en face... Bon, ce soir, c'est aussi un peu le cas, je crois. Mais disons que quand on a des interlocuteurs, évidemment, dont on sent plutôt que ce qu'on raconte les intéresse, etc., bon, ben c'est plus facile que quand on a des interlocuteurs plus virulents. Or, jamais, Bernard Olivier rencontre un interlocuteur virulent.
Depuis la sortie de votre livre, est-ce que vous avez eu des contacts de lui ou de ses proches, ou rien du tout
Si, on a eu des contacts pas directs de lui, mais parce qu'il prend bien soin de ne pas nous appeler, évidemment, mais on sait, puisqu'on est quand même dans un petit milieu médiatique dont nous aussi on fait partie, donc on a des retours complets. Donc on sait que par exemple quand il va sur les plateaux de télé, avant de venir, il vérifie avec moult précautions qui ne sera pas opposé à nous, par exemple, parce qu'il ne veut absolument pas avoir à répondre à nos informations, aux informations qu'on révèle dans notre livre. Et on sait aussi qu'il fait de l'intox absolu sur les animateurs télévision pour ne pas nous inviter.
Une petite chose amusante, c'est que traditionnellement, sa bande, il y a 20 ans, quand ils n'aimaient pas quelqu'un, ils le traitaient de « Oh, ben lui, c'est le genre maison de la culture ». Pour lui, la maison de la culture, qui était quand même une grande création de Malraux, pour diffuser la culture vers des milieux... populaire et des larges milieux, mais pour lui c'était vraiment le comble vraiment de la médiocrité. Et après, alors il a eu après toute une phase où quand on était contre lui, on était vichiste, sous-entendu voire antisémite. Alors là, il sera en train de passer une phase nouvelle, car nous il nous traite de robespierriste.
Voilà, c'était une nouvelle notion.
Alors on serait robespierriste. Bon, ça c'est assez chic.
Voilà. En fait, sa définition, juste pour terminer là-dessus, si j'ai bien compris sa définition, parce qu'il l'a jamais vraiment défini, mais il en parle tout le temps en ce moment-là sur les plateaux de télé, les robespierristes qui sont la face sombre de la gauche française, ou je sais pas quoi. Si j'ai bien compris, c'est juste des gens qui essayent de dire la vérité.
Voilà. Mais alors, il y a...
Juste une dernière chose, j'ai appris hier qu'il a préfacé le livre de Cesare Battisti.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez encore une fois
Mais j'en pense, c'est la technique habituelle de BHL. Quand quelqu'un fait la une des médias sous un mode politiquement correct, parce que évidemment que Battisti, bon, c'est un repenti et tout ça, donc qu'on est plus ou moins de gauche, on dit qu'on est plutôt pour Battisti. Donc quand il y a quelqu'un qui comme Battisti qui fait la une des médias, il faut que Bernard-Henri Lévy squatte l'événement, c'est-à-dire apparaisse comme le grand défenseur, le seul d'ailleurs, finalement, hein, parce que vous allez voir, oui, parce que le livre n'est pas encore sorti, le livre de Battisti, mais il va sortir la semaine prochaine, vous allez voir qu'on ne va entendre parler que de BHL.
Oui, mais en revanche, les gens qui ont été anormalement condamnés, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils avaient manifesté contre le CPE, alors ils n'ont pas eu le droit à un mot de Bernard Lévy, et bien au contraire, dans une chronique récente, il a quand même osé écrire à propos de ce mouvement que c'est une protestation dont on voit bien, malgré la sympathie de principe qu'elle inspire, vous allez voir la sympathie en question, la dimension pour le moment profondément conservatrice. Alors pour le moment, on ne sait pas pourquoi non plus, mais en tout cas, il prend en général des causes extraordinairement plutôt lointaines, et plutôt consensuelles. C'est vrai qu'il y a un acharnement de la justice italienne, incontestablement, contre les gens qui à l'époque s'étaient engagés, quelquefois effectivement s'étaient fourvoyés, un acharnement qui est vrai, qui provoque plutôt
la sympathie.
L'acharnement provoque plutôt l'indignation, bien sûr, assez générale. Bon, mais c'est quand même plus important d'être ici et maintenant, dans les combats d'ici et maintenant. Voilà. Et d'écrire le CP malgré. Alors, en fait, la raison est toute simple, c'est que ces fameux réseaux dont on parlait, ils ne sont pas seulement médiatiques, ils ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi politiques. Ils cultivent ces relations politiques, notamment avec les hommes politiques les plus importants, donc par ma droite, Nicolas Sarkozy, et bien sûr notre cher Premier ministre. Et donc, quand le cher Premier ministre est un peu à terre, eh ben, il le défend quand même pour entretenir l'amitié.
Il lui a prêté une chemise ?
Probablement.
Il faut préciser que vous avez quand même rencontré Bernard-Henri Lévy deux fois, je crois, pour vous faire votre livre, hein, et que vous lui avez posé des questions.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On lui a posé toutes les questions. Il répond, et on met ses réponses dans le livre, des réponses qui ont été pesées au trébuchet, d'ailleurs, et qui sont la plupart du temps risibles.
Non, ce qui est extraordinaire, je dis un mot quand même, parce que si vous voulez, il a voulu nous parler de ce qu'on appelle off. Dans le journalisme, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le citer, moralement, pour l'engagement de ne pas le citer. Ben, je vais transgresser le off ce soir, parce que, par exemple, parce qu'après, les réponses qu'on a pu mettre dans le livre, c'est des réponses qu'il a effectivement pesées au trébuchet dans des emails qu'il nous a envoyés, en général très courts, et niant à peu près tout ce qu'on avançait dans notre livre. Mais exemple, ben non, on le voit. Alors on lui dit, est-ce qu'il est exact que vous avez organisé un dîner entre Jean-François Kahn et François Pinault pour aider Marianne? Ah ben oui, naturellement, c'est des amis, c'est bien le moins, etc. Bon. Ensuite, l'email, est-il exact que vous avez organisé? Ah non, absolument, je vois pas de quoi vous parlez. Si vous voulez, le mensonge à cette paroxysme, parce que il ne se donne même pas, et ce cynisme même, parce que quelqu'un qui ment, au moins qui ment aussi, off. Vous voyez, mais lui, bon, quelle importance tout ça, c'est pour lui, on est des gagnes petits à lui poser de pareilles questions.
Mais comment aujourd'hui, effectivement, avec tout, je dirais, tous les moyens, moi la question que je me pose, c'est comment, effectivement, au niveau de la population, il n'y ait pas plus un peu plus de réactivité, vu, effectivement, parce qu'au-delà, moi je vois très bien qu'au-delà de Bernard-Henri Lévy, il y a tout ce système des médias actuellement, et moi je vois la difficulté que les gens ont effectivement à remettre cela en cause, parce que c'est la vérité première. C'est
écoutez,
ça le problème.
Moi, je veux dire, personnellement, j'étais plutôt assez heureusement surpris de l'écho qu'a eu ce livre, et notamment dans toutes sortes de médias parallèles, périphériques, peut-on dire, mais qui sont aujourd'hui, bon, les radios associatives comme celle dont on parle ce soir, mais également tout ce qui tourne autour des blogs. On a eu un certain nombre de blogs, y compris de gens dont le blog a un certain retentissement, et qui ont évoqué notre livre, des éditeurs, Assouline aussi, qui est un écrivain bon assez reconnu, etc., qui ont vraiment nous ont beaucoup aidé à populariser le livre. Il y a les sites internet. On a eu le site il y a eu Ouma.com qui a fait un excellent article sur notre livre et bien d'autres. Et donc si il y a aussi des journaux dans les régions un peu sur le style du Canard enchaîné. On a eu le droit à Lyon, on a eu le droit en Savoie, on a eu le droit à Marseille, on a eu le droit dans vraiment presque dans chaque grande ville il y a un support comme ça et qui a parlé de notre livre. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui circulent, bon, et je crois que ça l'a même un peu inquiété, parce que notre livre, on va arriver finalement à le vendre entre, pour être honnête, parce que c'est beaucoup d'auteurs grossissent un peu les chiffres, mais on va vers une vente de entre 10 et 14 000, voilà, de vente réelle, pas de mise en place, parce que c'est différent. Ouais. Eh bien, je crois qu'à un moment, le livre est parti donc dans des conditions quand même relativement favorables, compte tenu de l'ostracisme des grands médias, notamment télévisuels, bon. Et il a vraiment eu peur. La preuve, c'est que son ami François Pinault, toujours le même, bon, qui possède la FNAC, entre autres choses, a fait en sorte de ralentir la vente de notre livre dans les FNAC. Or, la vente des FNAC, aujourd'hui, pour un livre comme le nôtre, c'est 20 à 25% des ventes. Bon, aujourd'hui, on est à 5-6% de ventes FNAC sur le total des ventes. Et pourquoi ? Un, parce qu'ils se sont arrangés pour mettre notre livre en rayon philosophie, c'était un grand honneur. On pensait que c'était Bernard Lévy qui a dû être en rayon philosophie. Nous voulions plutôt
c'est
être
étonnant,
au
oui.
rayon des essais, d'actualité. Bon, deuxièmement, ils nous ont gommé du site, de leur site internet. Alors, quand on s'en est aperçu 10 jours après, ils ont prétexté un bug informatique. C'était un bug un peu long, mais enfin bon. Et troisième aspect, les FNAC de province ne recevaient pas notre livre. Mais ils ne recevaient pas notre livre pendant 10 jours, 15 jours, à tel point qu'elles ont fait ce qu'elles font extrêmement rarement. Elles ont appelé l'éditeur en disant, on a quand même des gens qui demandent, est-ce que vous pouvez nous envoyer des bouquins? Bon. Donc, par ces trois moyens-là, alors, si vous voulez, aujourd'hui, on le ressent comme un grand honneur, que M. Pinault lui-même, pour
calmer les inquiétudes de Bernard-Henri Lévy et agit, parce que c'est un jeu dangereux d'agir comme ça sur un DAX, c'est le refus de vendre, hein, c'est légalement c'est répréhensible. Et bon, on a appris depuis, en enquêtant un peu, parce qu'il y a des syndicats à la FNAC, heureusement, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui agissent, on a appris qu'ils le faisaient 3-4 fois par an. Donc oui, c'est dangereux. Et donc, qu'il l'ait fait pour nous, ben, on le ressent comme un grand honneur. Voilà.
Votre livre, ça me fait penser aussi un peu au film de Pierre Karl, Autour des médias, pas vu, pas pris, quoi.
Oui, c'est un peu ça.
Il y a un peu de ça, je trouve, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est assez décapant sur le monde des médias. Et je trouve que ça va à peu près dans la même... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cinéastes, ou de documentaristes, ou de journalistes qui s'intéressent, mais de plus près au monde des médias, à son fonctionnement.
Oui, parce que en fait, pour faire une confidence, en réalité, Bernard-Henri Lévy ne nous intéresse assez peu, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le système qu'il a fait roi, et tout le livre est là-dessus, sur les médias. Mmh. Absolument.
Donc vous reconnaissez quand même, enfin, qu'il y a aussi une part de peut-être de règlement de compte, mais presque dans la profession, finalement. C'est-à-dire que beaucoup de rédacteurs, aujourd'hui, sont un peu lassés d'avoir des
oui,
gens, des donneurs d'ordre.
Non, c'est ce qu'on dit, c'est que Bernard-Henri Lévy est une espèce de star et de vache sacrée pour 99% des dirigeants des médias, mais pour la base, pour les journalistes, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui écrivent des articles.
Pour le tiers état
des journalistes. il n'est qu'une gêne, il n'est qu'une anomalie.
Non, juste un point, je ne suis pas d'accord avec l'expression règlement de compte. Si vous voulez, vraiment, on a fait de l'enquête, et c'est tout.
Je dis ça
parce que, si vous voulez, on a vu, et ça nous a beaucoup peiné, le mouvement Reporters sans frontières, qui fait quand même des choses valables. Faire la une de son journal qui s'appelle Média, bon, et la une de tous les kiosques parisiens. On peut se demander qui a payé, on en a une idée d'ailleurs, parce qu'il est en relation actuellement, le patron de Reporters sans frontières, Robert Ménard, il est en relation avec le groupe Hachette pour financer sa revue. Le groupe Hachette possède les kiosques. Bon, donc il y a peut-être un lien. Bon, eh bien, il a titré, on avait une grande photo de Hachette, pourquoi tant de haine? Et dans l'entretien que donne Hachette, la haine, c'est ces journalistes qui se sont permis de faire une enquête sur son mode de fonctionnement.
C'est robespierriste.
On vous remercie, Joël. On vous souhaite une bonne soirée.
Et ben, très bonne soirée. Puis
merci,
va continuer.
Merci.
Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire. Jean Moulin.
Et oui, c'était Socialiste de Renaud. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'AC, c'est Agir Ensemble contre le chômage. Je reçois ce soir deux invités, Nicolas Beau, journaliste politique au Canard Enchaîné, et Olivier Tosseur, journaliste économique au Nouvel Observateur, pour leur ouvrage sur Bernard-Henri Lévy, une imposture française aux éditions Les Arènes. Alors moi, il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vient la fortune colossale de Bernard-Henri Lévy et comment il traite ses salariés ?
Elle vient d'Afrique, sa fortune. C'est une entreprise familiale qui a été créée par son père, qui était une entreprise d'exportation de bois précieux qui faisait 40% de son chiffre d'affaires avec l'Afrique. Une entreprise que Bernard-Henri Lévy a co-dirigé pendant une dizaine d'années et qu'il a dirigé seul pendant 2 ans avant de la revendre à son ami François Pinault. Nous, dans ce livre, on a réussi à retrouver un certain nombre de rapports d'ONG pro-environnemental qui nous expliquent un peu dans les sites d'exploitation de l'entreprise de Bernard-Henri Lévy comment se passait, enfin quelles étaient les conditions de travail, en tout cas. Conditions de travail assez peu ragoûtantes, on va dire. On est assez loin du commerce équitable dans cette affaire. C'était un peu à l'époque, c'est-à-dire jusqu'en 97, le lot commun de toutes les entreprises qui travaillaient dans le bois en Afrique. Hein, mais Bernard Lévy lui-même, pendant 2 ans, a assez largement exploité la forêt africaine. Oui.
Est-ce qu'il payait bien ses ouvriers? Parce que Bernard Lévy se fait le chancre de l'humanitaire. Donc est-ce que lui-même, en tant que responsable d'une entreprise, il paye bien ses ouvriers?
Eh ben, écoutez, c'est pas tellement un problème de salaire, c'est plutôt un problème de conditions de travail, de conditions de vie, puisque les ouvriers sont dans l'exploitation, dans des niches mal aérées, disent les rapports d'ONG, avec des conditions sanitaires assez déplorables, hein, en tout cas, aujourd'hui, en 2006, et ce sont des choses que j'espère qu'on ne voit plus en Afrique.
Et vous racontez quand même qu'il était associé à la direction.
Absolument, pendant 15 ans, il a été co-dirigeant de l'entreprise fondée par son père, hein, donc, mais il était vraiment co-dirigeant. C'est-à-dire qu'il participait à tous les comités exécutifs de direction, donc il était au courant de tout et il avait son mot à dire. Et à la mort de son père, André Lévy, il a dirigé seul, mais il nous l'a d'ailleurs confirmé, qu'il était absolument seul pendant 2 ans à exploiter cette affaire de bois africain.
Et à un moment où ça allait particulièrement mal, c'est lui qui, dans les années 80, va aller chercher de l'argent auprès de Balladur, Sarkozy, etc.,
pour renflouer l'entreprise. Oui.
Finalement, il a vendu son entreprise à
François Pinault, qui est un ami le plus proche, sans doute. Voilà, un ami milliardaire entre milliardaires, on se comprend, j'imagine.
Juste une chose, parce que là, tu viens de dire qu'il a demandé à Sarkozy, éventuellement à d'autres personnes, des politiques, un peu, de renflouer son entreprise.
À Balladur, exactement. Oui.
Donc, ça revient un peu à ton premier bouquin. Là, donc, c'est de l'argent public qui a servi à une
entreprise. Oui, exactement. Parce que,
c'est intéressant, ça.
Non, mais alors, en l'occurrence, là, l'aide, c'était à un moment donné, l'entreprise familiale allait très mal. Donc, il a obtenu, par l'intermédiaire d'Edouard Balladur, qui était à l'époque ministre des Finances, un prêt, je veux dire, pas taux zéro, mais un prêt à taux très bonifié. Donc c'est de l'argent public, évidemment, qui est là pour financer l'entreprise privée des Lévy, qu'il revendra 750 millions de francs à François Pinault quelques années plus tard.
Il n'a rien fait d'autre que le font un certain nombre de milliardaires français. C'était la thèse du livre d'Olivier qui s'appelait « Argent public, fortune privée ». Bon, et qui montrait qu'effectivement, les grandes fortunes françaises se sont faites sur le dos de l'État.
Oui, mais il n'échappe pas à la règle.
Non,
voilà.
Non.
Qu'il en a, on n'en a jamais parlé.
Non, mais ce qui est grave, bon, là on peut, bon, il est dans une certaine normalité française, donc qu'on peut regretter, mais ce qui est grave, c'est que, il n'en parle pas et il fait tout pour que ceux qui souhaiteraient en parler se taisent. Bon. Et c'est ça qui est le plus embêtant. Et deuxièmement, les rares fois où il en parle, c'est pour se dédouaner de toute responsabilité et dire, mais regardez ces gens affreux qui attaquent mon père, qui est mort, la mémoire de mon père, les défunts, je ne permettrai pas qu'on passe cette ligne jaune, etc. Et bon, enfin, toute cette espèce de discours complètement enflé, boursouflé, je veux dire, pour simplement qu'on n'évoque pas le rôle qui était le sien comme industriel du bois.
Lui-même.
Entre l'Afrique et la France.
Ouais. Oui, puis alors il a revendu son... Enfin, quand il a revendu son entreprise, c'est aussi quelqu'un qui aime spéculer.
Oui, parce que donc il a été pendant... Donc à un moment donné, un industriel, Bernard-Henri Lévy, un vrai industriel. Donc là, on ne parle pas de philosophe, on ne parle pas d'écrivain, on parle d'industriel. Vraiment, il l'a été. On le démontre dans le livre. Ensuite, une fois qu'il a vendu, il a une masse d'argent absolument importante, hein, 750 millions de francs, je vous rappelle. Et là, il devient financier. Donc on montre aussi dans le livre qu'il passe... une partie de sa journée, une partie de sa vie, à spéculer, à investir en bourse, à acheter, à vendre. Et il le passe, on a même pu quantifier le temps qu'il passait, le temps que ce pur intellectuel, entre guillemets, passait à gérer ses affaires de bourse, c'est une semaine par mois, par contrat. Il a un contrat qui fait qu'il doit passer une semaine par mois à gérer les affaires familiales, enfin l'argent.
Alors, dans le même ordre d'idée, il n'aime pas du tout perdre en bourse, Bernard-Henri Lévy. Il a notamment menacé une financière qui s'appelait Claire Arfin quand la bourse a battu de l'aile après les événements du 11 septembre 2001.
Et absolument, et il a réussi, c'était le seul des actionnaires de ce fonds de placement à avoir récupéré sa mise, et même au-delà.
Même au-delà, oui.
Alors, il a été d'ailleurs interrogé par les flics de la brigade financière sur ces menaces. Et il y a un moment, le parquet a hésité à aller au-delà et à le mettre en examen là-dessus. Et finalement, a renoncé. Et là, je pense, on n'a pas eu les détails, mais je pense que là, il a dû beaucoup s'agiter Et appeler ses amis politiques.
Parce qu'il a menacé la personne personnellement pour récupérer son argent.
Oui, absolument.
Exactement. C'était pour alors que tous les actionnaires du fonds perdaient de l'argent parce qu'il y a eu des mauvaises opérations qui étaient faites en bourse, lui était le seul à récupérer toute sa mise et au-delà, grâce à des menaces sur des chantages à l'emploi, en fait, d'après Claire Arfi, en tout cas, d'après ce qu'elle a dit à la justice. Mais la justice n'a pas été cherchée plus loin, comme disait Nicolas.
Alors moi, je voulais en venir à la dernière chose, c'est les idées de Bernard-Henri Lévy. Je me suis demandé souvent si c'était quelqu'un de schizophrène, voire d'amnésique. C'est quoi le nouveau philosophe? C'est un concept qui est né de lui-même. Ça vient d'où cette histoire de je suis un philosophe, mais je philosophe pas et je professe pas. Je comprends pas.
Il y a rien à comprendre, hein, parce que si vous voulez, il défend tout et le contraire. Alors, quand même, on sait que les nouveaux philosophes, ça a été un mouvement intellectuel contre le marxisme. Bon, on peut être pour, on peut être contre. Bon, alors aujourd'hui, quand il en parle, non, c'est pas du tout ça. Il dit le combat que nous menions à l'époque, bon. N'a pas dévié d'une ligne contre le marxisme, non. Alors, bon, contre le pseudo-progressisme. Alors, il sait pas, mais il veut montrer que c'est un combat. Alors aujourd'hui, il dit tout à fait autre chose. Bon, et dans le livre, on montre aussi quand il a créé un journal avec l'argent de son père quand il était jeune, qui s'appelait L'Imprévu. Il était capable, dans deux numéros de suite, de défendre un coup la bande Abadère, qui était quand même des gens assez assez sévères quand même dans le genre, bon, pas détendre. Et le lendemain, il faisait l'apologie de François Giroud, ministre giscardienne. Si vous voulez, je crois que le niveau d'opportunisme, de façon, de en Lévis, est absolu. D'ailleurs, il le revendique. Il dit la littérature, c'est l'art de la guerre, le mensonge ou la vérité, tout ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'exister. Ce qui compte, c'est d'être au centre de la mêlée. Bon, et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'il y a réussi pas mal.
Une dernière question. Bernard-Henri Lévy, au défaut d'être un génie de l'idée, n'est-il pas un maître de l'imposture, du clinquant et du paraître?
C'est le titre de notre livre, hein. C'est l'imposture française personnifiée. C'est du paraître, c'est de l'image, c'est de la société des médias, société de la télé d'ailleurs, plus que des médias, même presque, parce que aujourd'hui il n'y a que la télé qui compte. Et voilà un philosophe, enfin quelqu'un qui se présente comme un philosophe, un intellectuel, qui passe son temps dans les émissions de show business.
Je voudrais juste dire un mot pour pas désespérer nos auditeurs, c'est que on parle du système médiatique dominant, si vous voulez, mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans un, c'est, en tout cas le point de vue qu'on partage Olivier et moi. On n'est pas du tout dans un système totalitaire. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'espaces. Ce soir, le prouve. Bon, et même dans ces médias dominants, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent pour faire passer un papier. On a eu un confrère qui a fait un interview sur RFI, Grande Radio Nationale, à propos de notre livre. Et bien, il a eu droit à un blâme.
D'accord. Nicolas Beau et Olivier Tessard, je vous remercie. Je vous rappelle que vous avez écrit Une imposture française aux éditions Les Arènes, un livre qui retrace la biographie pour le moins mouvementée de Bernard-Henri Lévy. Voilà, à la semaine prochaine et bonsoir à tous.
Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte otra vez.